Voilà. Il y a tellement de choses à se connecter. Il faut nous excuser pour ces temps morts. Si on ne le fait pas, ceux qui sont sur Internet ne pourront pas nous suivre de la bonne façon. Nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous donne, cette occasion, cette opportunité d'être dans sa présence, de l'adorer, de le louer, de le célébrer. C'est notre identité de chrétien que d'aimer louer notre Dieu. La louange sied à ceux qui aiment Dieu. Lui dit notre reconnaissance. Lui dit combien nous l'aimons. Lui dire que sans lui, aujourd'hui, plus que hier, nous sommes convaincus que nos vies ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc sa grâce est suffisante. À jamais, il sera l'agneau sur le trône. Celui dont la grâce est suffisante, celui qui nous a rachetés. Et nous bénissons son nom. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons. Je me saisis de cette opportunité en ce moment du culte pour moi aussi élever ma voix, comme mes frères et mes sœurs l'ont fait, pour te remercier. Merci pour la vie. Merci pour cette semaine. Tu as été là, dans les joies de ma famille, dans les joies des familles de cette église. Tu as été là, notre Dieu. Tu en es même la source. C'est toi qui es la source de notre joie. Merci pour toutes les bénédictions dont nous avons été l'objet au cours de cette semaine. Dans les épreuves de cette semaine, tu as été aussi là. C'est grâce à toi que nous sommes là, malgré les épreuves de la semaine, parce que tu nous as donné la force de tenir, de rester debout, même dans la difficulté, d'espérer en toi. Tu es le Dieu de toute espérance. Et c'est vrai que tu dis, invoque-moi au jour de la détresse et j'agirai. Tu es le Dieu qui agit. Tu n'es pas ce bout de bois mort. Tu n'es pas une idole. Tu es Dieu, créateur du ciel et de la terre, détenteur de tous les pouvoirs. Tout est possible en toi. Simplement, c'est toi qui décides à quelle heure, à quelle seconde tu déclenches les actions dans nos vies. Et nous te bénissons pour cela. Parce que tu sais mieux que nous ce qu'il faut faire. Nous te bénissons. Rends-nous sensibles maintenant, après t'avoir loué, adoré, rends-nous sensibles à ta parole. Qu'elle puisse nous bonifier, nous rendre meilleurs en toi, nous faire grandir en toi. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous avions commencé à regarder ensemble les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, du verset 3 au verset 12. Quand on lit les passages qui viennent avant, qui nous parlent de cette histoire de Jésus, on voit que tout le chapitre 4 nous raconte que Jésus était dans l'action. Il était celui qui avait compassion du peuple pour lequel il est venu. Donc, il proclamait cette bonne nouvelle pour que les cœurs se tournent vers Dieu, pour que les esprits soient renouvelés en Dieu, mais pas que. Il voyait aussi des situations concrètes, notamment des situations de maladie. Rappelons-nous que nous sommes 2000 ans Avant notre ère, nous ne sommes pas au XXIe siècle avec cette médecine développée. On est dans des périodes de l'histoire où la médecine est encore très rudimentaire. Et les maladies sont peu connues et les remèdes sont peu connus. Et le texte nous dit que tous ces malades, parfois des malades de longue date, aspiraient à la guérison. Mais qui allait les guérir? Et l'un des aspects du ministère de Jésus, pour prouver qu'il est le Messie, c'était justement d'être capable de guérir par la puissance de ce qu'il est. Il est Dieu. Et donc les gens lui amenaient des malades. Et dans Matthieu 4, on dit, il les guérissait. Et les gens venaient même de loin. Tous ceux qui apprenaient qu'il y a quelqu'un qui était capable maintenant de guérir, comme quelquefois quand nous dirigeons nos malades vers des grands centres de santé, n'est-ce pas, des grands spécialistes, c'était pareil. De bouche à oreille, il y a quelqu'un qui est capable de guérir. Et les gens venaient. Et la Bible dit, la fin du chapitre 4 dit, il les guérissait tous. Guérissait tous. Dans d'autres épisodes des évangiles, on va voir que Jésus dit que la guérison est certes utile, mais qu'il n'est pas qu'un guérisseur. Il n'est pas là que pour guérir physiquement, parce qu'il est là pour guérir l'âme. Même s'il prend soin du corps, mais il sait que entre l'âme et le corps, celui qui est éternel, celle qui est éternelle, celui qui est éternel, ben, ce n'est pas Serge en tant qu'être humain charnel. Ce n'est pas Caroline en tant qu'humain charnel, mais c'est Serge ou Caroline ou Eric en tant que création de Dieu, une âme vivante qui, elle, est éternelle. Elle a un séjour dès qu'elle naît comme un homme, mais son séjour ne s'arrête jamais. Son séjour sur la terre est bref, au plus 120 ans, mais son séjour est éternel. Avec Dieu. Et où va se passer cette éternité? C'est la question. Et nous qui sommes là, nous y avons répondu. Parce que nous avons répondu en disant, je veux passer cette éternité dans la félicité éternelle auprès de Dieu. Alors Dieu dit, il n'y a pas deux solutions. Si tu veux passer cette éternité là-bas, bah, tu ne peux pas de toi-même. Parce que ta nature, à cause du péché duquel elle a hérité, ne peut pas y accéder. C'est comme si on disait être humain, écoute, on va t'envoyer sur la lune sans habits spéciaux, sans fusée, on va t'envoyer sur la lune. C'est presque impossible. Il y a tout un arsenal à préparer pour que cette personne aille sur la lune. Et nous, on dit on veut aller dans l'éternité, mais on n'a pas besoin des équipements qu'il faut. On n'a pas besoin. On va y aller. Il avait dit qu'on est stupide parfois. Alors que les choses de la vie nous enseignent. Et justement, cet équipement, c'est la mort de Jésus. C'est ce sacrifice qu'il a offert à la croix, sa vie qu'il a donnée. C'est cela qui nous rend aptes dans ce voyage vers la bonne destination, l'éternité de Dieu. Par contre, Jésus dit, pendant que vous êtes encore là, vous devez faire la démonstration que vous êtes déjà dans le royaume. Parce que les citoyens du royaume, ils sont déjà citoyens ici. Et ça va être une continuité par la suite. Donc il dit, démontrez pendant que vous êtes là que vous avez bien accepté le Christ dans votre vie et que vos vies manifestent les caractères de ceux qui habitent le royaume de Dieu. Il dit, si vous êtes citoyen du royaume des cieux, ben, ça doit se voir. Ça doit être concret. Et c'est ce que nous avons commencé de voir. Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Je lis les quatre béatitudes qu'on avait déjà vues. Je les lirai juste, je ne les commenterai pas aujourd'hui. Pour ceux qui veulent le réécouter, vous allez sur le site de notre église et vous réécouterez ce message, pardon. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux. Ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de la justice, ils seront rassasiés. Et aujourd'hui, nous allons voir le verset 7 au verset 12. Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les miséricordieux, dans d'autres versions, c'est ceux qui ont compassion, ceux qui sont compatissants. La miséricorde ici se rapporte à la souffrance. Ceux qui sont touchés, ceux qui ne sont pas indifférents à la souffrance des autres, ceux qui sont dans la misère, dans la détresse. Et premièrement, cette misère, cette détresse est relative au péché. Et j'en ai un peu parlé la fois dernière. Le péché nous rend tristes. Le péché nous affecte tristement. Déjà, de par la destination qu'elle nous fait prendre, elle nous fait prendre la destination de la mort éternelle, de l'enfer, loin de Dieu. C'est une grosse tristesse, c'est une grande tristesse. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la terre. Combien connaissent Jésus? C'est là la mission de l'Église. Continue d'annoncer cette bonne nouvelle pour que tous ceux qui ne le savent pas puissent se convaincre malheureusement que les 7 milliards que nous sommes, notre destination, le biais que nous avons pris, nous conduit tous en enfer. À cause de la détresse dans laquelle le péché nous a mis. Mais Dieu soit loué, parce que Dieu est miséricordieux dans sa grande compassion. Il a pitié de ceux qu'il a aimés, les hommes. Donc, il ne nous laisse pas errer comme un navire qui a perdu son orientation. Non, il nous donne un cap. Il dit, je vous montre la voie pour faire demi-tour. C'est en Christ Jésus. Dieu est miséricordieux, bien-aimé. Il est compatissant. Sa compassion se manifeste envers nous, justement. Parce que, alors que nous étions pécheurs, alors que nous sommes rebelles à lui, lui, il ne se lasse pas de chercher à nous renouveler, à rétablir la relation avec nous, à aller nous chercher. Et si on demandait à plusieurs d'entre nous ce matin de rendre témoignage, nous dirions tous la même chose. À un moment donné, Dieu s'est révélé à moi. Heureusement qu'il a été là à ce moment-là. Et la suite de l'histoire, c'est ma présence. Et je bénis Dieu pour cela. Dieu est miséricordieux. J'avais dit que ces quatre autres béatitudes nous parlent de la relation, de la responsabilité du chrétien vis-à-vis de son prochain. Les premières béatitudes nous parlaient d'abord principalement de notre relation à Dieu. Mais vous savez que l'apôtre Jean dit, celui qui aime Dieu, c'est bien. Mais s'il n'est pas dans ce même type de rapport avec son frère, Jean dit, je doute qu'il aime Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est aimer aussi son prochain. Donc à chaque fois qu'on parle de relation avec Dieu, tout de suite on parle de relation avec son prochain. Jésus dit, quel est le plus grand commandement? C'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Et dit, le deuxième qui est similaire au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux sont liés. Alors, cette miséricorde que Dieu a envers nous, il attend aussi que nous l'ayons les uns envers les autres. C'est reconnaître que nous sommes sauvés par grâce et que la grâce n'est pas un dû. La grâce, ça veut dire je ne méritais même pas ce statut de chrétien que j'ai aujourd'hui. C'est Christ qui me l'a acquis, c'est lui qui me l'a donné. Ce n'est pas mes œuvres qui me les ont acquis. Donc, je ne peux pas m'enorgueillir. Du coup, je ne peux pas faire le fier par rapport à celui qui n'a pas encore connu Christ. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas mes œuvres qui l'ont fait. C'est Dieu qui a fait grâce. J'étais aussi comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu m'a fait grâce, il s'est révélé à moi. Du coup, ma miséricorde doit aussi s'exercer vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je dois être compatissant envers eux jusqu'à ce que la grâce de Dieu les touche aussi. Et cette miséricorde doit s'exercer aussi dans la vie quotidienne, devant les détresses que nous pouvons rencontrer dans nos familles, dans la rue, dans nos relations. Nous avons besoin d'être sensibles à la détresse. Hein? La nuance entre la miséricorde et la pitié, c'est que la pitié, parfois, reste juste une bonne intention. On dit, oh, j'ai pitié de lui. La pitié ne se traduit pas forcément en action. La miséricorde, c'est une pitié, une miséricorde, mais qui se traduit toujours en action. C'est-à-dire que j'ai vu une détresse, elle m'a touché, mais je ne reste pas sur le fait qu'elle m'a touché. J'essaie d'aider avec ce que je peux. C'est ça la miséricorde. C'est ça la miséricorde. Parfois, on le fait à ses dépens, hein, mais il ne faut pas que ça nous rebute à continuer à refaire. Il y a des gens mal intentionnés, malheureusement, qui en profitent, mais qu'à cela ne tienne. Est-ce pour autant que ma bonté va se dissiper? Non. 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 Moi, je me l'ai fait à mes dépens un jour et je me suis pris des allergies. Parce qu'il y avait un petit bonhomme, c'était dans un petit village, qui était un peu rejeté de tout le monde et qui lavait ses vêtements dans ses villages un peu reculés. À la rivière où tout le monde lavait les vêtements. Et moi, je trouvais qu'il était tellement petit pour laver ses vêtements. Et du coup, j'étais jeune, hein, et je l'ai aidé à laver ses vêtements. Mais en fait, il avait des allergies que tout le monde savait, et personne ne voulait l'approcher. Personne ne voulait prendre le risque d'être contaminé. C'était pas mortel. Et moi, je ne l'ai fait pas compassion. Mais c'est vrai qu'après, mes doigts ont été couverts aussi de petits boutons. Ma mère m'a dit, mais. Je raconte ça pour dire que miséricorde, avoir la miséricorde, ça coûte. Hein. C'est un sacrifice qu'on fait pour apporter aide à quelqu'un dans une situation précise. Et ça nous coûte toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Pas toujours avec des boutons hein, qui vont apparaître sur le mal, hein. Je rassure tout le monde. Mais c'est l'idée que si on regarde souvent trop aux conditions, on n'arrive pas à aider. Si on regarde trop à tous ceux qu'on a aidés, qui n'ont pas été reconnaissants ou qui nous ont dupés, on n'est pas miséricordieux. Si Dieu voulait regarder à ça, il allait arrêter sa miséricorde. Hein. Combien de fois les gens disent, Seigneur, si tu me fais ça, tu verras, je te suivrai. Et puis après, oh là, dès qu'ils ont eu la chose, au revoir Seigneur. Mais vous savez, le Seigneur, on ne peut jamais lui dire au revoir. Parce que de toutes les façons, il voit tout, il sait tout, il est toujours présent. Et il y a cette parabole qui nous en parle tellement bien. Dans certaines versions, elle est intitulée « Le serviteur impitoyable ». C'est dans Matthieu, le chapitre 18, où Jésus raconte une parabole pour illustrer l'action de la miséricorde de Dieu et comment nous, on n'est pas miséricordieux. Il dit « Voici un serviteur qui devait à son maître. » Donc Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. « Voici un serviteur qui devait de l'argent à son maître. Et son maître lui avait tellement donné des délais, retiré, qu'à un moment donné, son maître a dit, ça suffit, tu rends compte maintenant. C'en est trop, là tu essaies de me duper, on arrête là. Si tu ne peux pas, et c'était la loi de l'époque, bah, je vendrai tes enfants et je mettrai ta femme en gage jusqu'à ce que tout l'argent me soit remboursé. Il a supplié encore le maître, s'il te plaît, donne-moi encore quelques jours et je te promets. Comme disent les jeunes, je te promets que je te rembourserai. Le maître dit, ok, qu'est-ce que ça me coûte d'attendre quelques jours? Ça fait déjà tant de fois que j'attends. Et le texte dit, Jésus dit, dès que ce serviteur est sorti de la, je vais dire, du bureau de son maître, dans la rue, bah, il a vu un de ses amis qui lui devait de l'argent. Il a dit, ah, ça tombe bien toi. Là, je viens de me faire engueuler. Aujourd'hui, pas question, toi aussi, tu me rembourses. Et cette personne lui a dit, littéralement, ce que lui, il a dit à son maître, c'est la même chose que la personne qui lui devait lui a dit, s'il te plaît, donne-moi encore quelque chose. Ah, oh, t'es pas un gars bien. Quand on te donne quelque chose, on ne te voit plus. C'est aujourd'hui. Saisis, tu peux tout maintenant. La scène a tellement choqué ses collègues qui étaient dans le bureau avec son maître, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Lui, il vient de se faire pardonner là, avoir un délai. Et il ne peut pas donner un délai à son. Et ils sont allés dire là, ils sont allés rapporter au maître. Et le maître dit, faites-le revenir. Il dit, mais tu n'es pas bien. Je viens de te faire miséricorde. Et toi, tu ne fais pas pareil. Ok, je déchire l'acte que je t'avais donné comme délai. Maintenant, si bon, tu rembourses tout aujourd'hui. Et Jésus raconte cette histoire pour montrer comment nous sommes. Il dit, Dieu nous fait tellement miséricorde, mais nous sommes tellement durs de cœur vis-à-vis de nos prochains, vis-à-vis de l'autre. Et dans Matthieu 12, Pierre, qui a compris un peu ça, demande à Jésus, d'accord, soit. Mais combien de fois je dois pardonner à quelqu'un, franchement, qui n'arrête pas et qui est toujours dans la même chose? Je lui pardonne, il revient, je lui pardonne, il fait la même chose, je lui pardonne, il fait la même chose, je lui pardonne, il fait la même chose, je lui pardonne, il fait la même chose. Combien de fois? Dis-moi. Jésus dit, Pierre, sept fois, 70 fois, sept fois. Moi, je préfère le calcul, mais faites le calcul, multipliez, ouais. Ce n'est pas un petit chiffre, ça. C'est quand même élevé. 7 fois 70 fois 7 fois. Déjà, le chiffre 7 pour un juif, c'est un chiffre particulier. C'est le chiffre de la plénitude. Donc, on l'utilise. Donc, Jésus est en train de dire autant de fois que Dieu est capable de te pardonner à toi quand tu demandes pardon. Autant de fois, tu dois être capable de pardonner à l'autre quand tu demandes pardon. Puis, il a dit, oula. Ce n'est pas demain qu'on va sortir cette affaire. Oui, parce qu'on ne peut pas sortir cette affaire de notre propre nature. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la nouvelle naissance est importante. C'est pour ça qu'accepter Jésus et laisser l'Esprit de Dieu nous transformer de l'intérieur, c'est lui qui nous rend capables d'une telle miséricorde, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui vient à l'aide du croyant et qui l'aide à être capable de cette miséricorde-là. Que Dieu nous aide. Ça doit faire partie de notre caractère de chrétien, cette miséricorde qui nous rend sensibles à la détresse de l'autre, mais aussi qui fait de nous des hommes et des femmes qui sont capables toujours de rentrer dans un processus de pardon. Je dis processus à dessein, parce que des fois, il y a des choses où on n'a pas la capacité de pardonner là, dans la seconde qui va suivre. Mais on peut s'ouvrir au pardon. Où est la nuance? Je peux m'ouvrir au pardon en demandant à Dieu, c'est trop dur, mais tu m'as appelé. Je suis ton enfant. Autant toi, tu es capable de me pardonner, donne-moi les capacités de pardonner. Et on prie pour ce sujet, on prie pour la personne. Et Dieu nous aide à le faire. C'est ça, la miséricorde. Dans l'action d'aider, mais aussi dans le pardon que nous pouvons accorder. Ensuite, il dit, l'autre chose qui doit faire partie de notre caractère, c'est ceux qui sont, ou ceux qui ont un cœur pur. Là, Jésus met la différence entre la pureté extérieure, ce qu'on appelle les actes religieux, hein, et puis la pureté du cœur. Jésus a beaucoup reproché ça aux pharisiens de son époque. Les pharisiens, c'était des hommes religieux de l'époque de Jésus, des juifs, qui étaient considérés parce qu'ils connaissaient vraiment les commandements de la loi, et ils faisaient l'effort de les appliquer. Jésus leur dit, malheureusement pour vous, vous aimez les appliquer de façon extérieure. Vous aimez qu'on vous voie accomplir des actes de piété, mais vos cœurs ne sont pas bons. Il dit, les motifs souvent pour lesquels vous faites ne sont pas purs. Tout le peuple vous reconnaît comme vraiment des religieux impeccable, mais quand on regarde vos motifs, vos motivations, elles sont basses. Et Jésus a pris une image qui est terrible. Il dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Il prend cette image parce que, manifestement, il y a vraiment des tombes. Si vous allez dans ce cimetière Ulus de Paris, j'ai oublié le nom déjà, Père Lachaise, c'est un vrai quartier. Vous êtes déjà allé? C'est un quartier incroyable. Les touristes vont faire du tourisme au cimetière de Père Lachaise. Et c'est fait comme ça. Parce qu'il y a des tombes qui sont tellement belles avec des... Wow. Jésus dit, c'est comme ça que vous êtes les pharisiens. Vous êtes comme le cimetière de Père Lachaise, où les gens viennent regarder toutes ces belles tombes. Mais il dit, qu'est-ce qu'il y a dans la tombe? Malheureusement, nous tous qui avons perdu des êtres chers, ben, nos êtres chers, ils ne sont plus là. Hein. C'est leurs ossements. Ils ont décomposé. Jésus dit, dans les tombes, c'est la pourriture. Parce que la chair, elle reste dans la terre. Mais l'âme, comme je vous l'ai dit au départ, part à Dieu. Et dit, vous êtes comme ça, les pharisiens. À l'extérieur, vous semblez être des gens purs, mais au-dedans de vous, vous êtes mauvais. Et Jésus dit, je ne veux pas que les enfants de Dieu, que ceux qui appartiennent au royaume soient comme ça. Comme on le dit dans notre jargon moderne, Jésus ne veut pas que nous soyons des chrétiens de dimanche. Il semble, pour ceux qui nous critiquent beaucoup, disent les chrétiens, les dimanches, tous les chrétiens, ils sont beaux, ils sont gentils. Mais va les chercher en semaine. Mets une caméra cachée et suis-les la semaine. Tu seras bien déçu. Vous savez, quand ils nous cherchent noise, ils ne sont pas gentils parfois. Ce n'est pas vrai. Mais ce qu'on peut sortir de cette histoire, c'est finalement, nous sommes chrétiens tous les jours. La même dévotion que nous avons en venant les dimanches, c'est pour ça que les évangéliques, nos lieux de culte sont souvent simples. Parce qu'on ne veut pas, et je ne veux pas la critique, mais pour nous les anciens catholiques, c'est vrai que quand tu rentres à l'église, oh, tu sais que tu rentres dans quelque chose de spécial. Hein, voilà. Dès le pas de la porte même, tu as une attitude déjà de... Tu fais le truc, comme on dit, pas une mouche, silence religieux. Et la messe va durer le temps que ça va durer. Mais dès que nous, on était sortis en tant que gens, oh, avec les mots aussi grossiers, notre calme a duré le temps de la messe. Et après, on est reparti dans notre... C'est l'une des choses qui a fait que le Seigneur m'a touché, que je me suis tourné vers la foi. Parce que ça m'a quand même attristé. Et je ne critique pas, mais je parle de moi. J'ai fait tous ces rites et au fond, je n'étais pas moi-même un cœur pur. Et mon cœur n'était pas pur. Et mon cœur n'était pas pur. Et j'étais en train de me convaincre que quand même j'allais au ciel. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La conséquence, c'est que si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu, quels que soient les actes religieux que tu fais. Et beaucoup de nos systèmes religieux font de nous des gens qui sont purs à l'extérieur. Rassure-toi que tu es dans le vrai, que ton cœur est pur avec Dieu, que ce que tu as au-dedans de toi, tu l'as donné à Dieu. Ce n'est pas juste des actes religieux. J'ai aimé d'avoir grandi dans ma foi dans les groupes bibliques universitaires. Parce que là, on m'a appris, parfois ça choquait ceux qui étaient très religieux, que ce n'est pas ton pasteur qui te sauve. Nous, on était parfois durs en tant qu'étudiants avec nos pasteurs, parce que dans les GB, vous savez, on étudie beaucoup les textes bibliques. Et puis, l'idée, c'est que comme tu es étudiant dans un monde austère à la foi, il faut que tu sois solide dans ta foi. Et que ta foi ne soit pas rimée à la foi de ton pasteur. Parce qu'à la fac, ton pasteur, il n'est pas là-bas. Tu n'auras pas le temps de l'appeler pour dire, pasteur, là, je suis confronté à une situation, quel verset en parle? Donc, on nous habitue à nous enrichir de la parole de Dieu pour être vraiment enraciné, avoir une foi ferme, parce que jour après jour, nos disciplines universitaires nous confronte au fait que Dieu n'existe pas. C'est ça le monde universitaire. Et du coup, on nous a appris, c'était pas méchant, mais c'était pour dire, si ta foi est trop dépendante de ton pasteur, tu ne vas pas t'en sortir dans ce milieu universitaire. Tu dois toi-même connaître ton Dieu. Marcher avec ce Dieu pour que ton cœur soit pur pour ton Dieu. Donc ton cœur pur, ce n'est pas pour ton pasteur. Ce n'est pas pour l'Église. Ce n'est même pas pour tes parents si tu es dans une famille chrétienne. C'est pour toi avec ton Dieu d'abord. Ensuite, oui, il y a une foi dans l'Église. On est ensemble en tant que frères et sœurs. Il y a une foi dans la famille, si c'est une famille chrétienne. On est une famille chrétienne. Mais cet aspect où tu dois avoir un cœur pur, c'est devant ton Dieu. Et ce cœur pur se manifeste aussi dans nos relations interpersonnelles. C'est quoi avoir le cœur pur dans les relations interpersonnelles? C'est d'être quelqu'un de transparent quand tu as des relations avec les gens. Ça ne veut pas dire de dire tout aux gens, mais ça veut dire que tu ne dois pas être dupe, ni hypocrite, ni quelqu'un de double. Hein? On dit souvent, il a une double face. Quand il est avec nous, il est jaune. Quand il n'est pas avec nous, il est vert. Et le cœur pur, c'est quelqu'un d'entier, qui est toujours lui-même. Que ce soit en famille, que ce soit avec ses amis, il est toujours lui-même. Et l'application concrète, c'est que tu es toujours chrétien, tu es toujours chrétienne, je suis toujours chrétien. Peu importe ceux avec qui je suis, au moment T, ben, je suis chrétien. Le cœur pur, c'est ça, c'est pas, ah, je suis avec mes copains, ils ne sont pas dans la foi, donc je fais comme eux. Oh là là. Mais non. Tu es avec eux, mais tu es une chrétienne, tu es un chrétien, tu connais ton Dieu, tu as les valeurs que ton Dieu t'a données, mais vilain. Et tes copains, tu seras même reconnaissant, parce qu'ils vont dire, celle-là, peu compter sur elle, elle est entière, elle a une identité, franchement, c'est une personne de confiance. Parce que si tu joues un joue-jeu, vous savez, nos amis, ils sont gentils, mais parfois ils sont, ah, bah, tu étais une chrétienne, mais on ne le savait pas. Mais dis donc, tu as bien caché ton jeu, toi. Ça veut dire quoi, tu as bien caché ton jeu? Son jeu. On n'est pas dans un jeu, c'est ta vie, c'est ton identité. Tu es chrétien, je suis chrétien. C'est mon identité. C'est comme ça. Je suis chrétien partout. Je disais à quelqu'un, vous savez, le fait que je suis chrétien, je n'ai pas d'autres paroles. La seule qui me guide, c'est la Bible. Parfois, quand j'en parle, ça ne fait pas du bien, mais je ne peux pas avoir un autre message en tant que pasteur. J'ai que ce message-là. C'est qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Je ne peux pas avoir un autre message que celui-là. Pas dire, écoute, Jésus sauve, mais peut-être qu'il va te sauver, ou peut-être qu'il ne va pas te sauver. Ou choisir un autre chemin, peut-être que tu seras sauvé. Mais non, je ne peux pas dire ça. Mais si je veux être cohérent avec le message que je ne peux pas changer, il faut que ma vie soit cohérente avec ce message. C'est ça le cœur pur. Quelqu'un d'entier qui est lui-même, qui est chrétien. Tout simplement. Et de ceux-là, bah, ils verront la face de Dieu. Ils seront avec Dieu. Parce qu'ils auront montré qu'ils sont les enfants de Dieu, ici et pour l'éternité. Amen. L'avant-dernière béatitude, il dit, heureux ceux qui sont des artisans de paix, des faiseurs de paix, ceux qui travaillent à la paix. Moi, j'aime le mot artisan. Hein, vous savez, l'artisan, c'est celui qui travaille de ses mains. Hein. L'artisan, c'est celui qui met la main dans le cambouis et qui sort une œuvre qui est toujours faite. Voilà, par lui-même. Chaque chrétien est appelé à être un artisan, un ouvrier de paix, à la fois dans la société, à la fois dans l'Église et dans sa relation avec Dieu. Nous sommes invités à être de ceux qui invitent le monde à être en paix avec Dieu. C'est parce que certains nous ont invités à faire la paix avec Dieu que nous sommes là aujourd'hui. Moi, il y a eu mon cousin qui m'a annoncé l'Évangile et c'est lui qui a été l'ambassadeur de Dieu pour rétablir ma relation avec Dieu. Si Camara Mamadou n'avait pas été là, Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est lui que Dieu a choisi ce jour-là. C'était un 11 mai, un mardi, je m'en souviens, un mardi 11 mai, sur ce campus universitaire, dans sa petite chambre d'étudiant, il m'a dit, Serge, regarde, tu es mon cousin, mais je veux te dire la vérité. Cette façon de faire ta foi qui est extérieure, c'est pas celle-là que tu mets les Dieu. Et là, tu es venu me voir parce que tu es angoissé, mais c'est normal. Parce que si tu ne fais pas la paix avec Dieu, tu seras toujours un peu troublé dans beaucoup de choses. je vois que tu aimes Dieu, mais tu n'es pas dans le bon chemin. Et puis, il me l'a sorti des têtes publiques. Il les a lues avec moi. Et ça m'a touché. J'ai dit, ça fait longtemps que je cherche ça. Mais je ne savais pas où. Et pourtant, mon cousin, ça faisait des années qu'on se côtoyait. Mais je voyais bien qu'il était différent de moi. Mais il m'aimait. Hein. C'est un cousin qui ne m'a jamais jugé. Il ne m'a jamais dit, regarde ce que tu fais, c'est pas bien, et tout ça. Non, quand il avait l'occasion, quand je lui posais la question, effectivement, il me disait, écoute, moi, je ne fais pas ça. Peut-être tu ferais mieux de ne pas faire ça. Mais après, c'est toi qui vois. Mais ce jour-là, c'était le bon moment. Il a dit, Serge, tu sais, on est cousins, on se connaît bien. Mais là, faut que je te dis ça. Tu as besoin de Jésus. Il a été l'artisan de paix entre moi et Dieu. Il m'a établi à Dieu. Et nous tous là, les chrétiens, nous sommes invités à être des artisans de paix, à aider nos proches qui ne connaissent pas Dieu à faire la paix avec Dieu. Les inviter à faire la paix avec Dieu. Après, ils décident pour eux. Mais c'est notre travail. Et ensuite, nous devons être des artisans de paix dans nos familles. Certes, il y a l'aspect spirituel, mais il y a l'aspect relationnel. Le chrétien ne doit pas être un agent de conflit. Le chrétien ne doit pas être un agent de tension. Ce n'est pas à lui toujours d'être là pour créer des problèmes, des histoires. Non. C'est pas ton travail. Ce n'est pas mon travail. Mon travail à moi, ton travail à toi, en tant que chrétien, c'est d'être des artisans de paix. Même quand tout ne va pas, nous on dit, Dieu est capable. Et on cherche dans la prière les voies et moyens pour rétablir des relations brisées dans nos familles, pour rétablir des relations peut-être brisées entre des collègues. Parfois on y arrive, d'autres fois on n'y arrive pas. L'artisan de paix, il n'arrive pas toujours à créer la paix, mais il est toujours en train d'essayer. On dit, le pire, ce n'est pas celui qui essaie, c'est celui qui ne fait rien. Dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, il y a une expression que Martin Luther King a dit. Il dit, ce n'est pas la méchanceté des méchants qui me fait mal, parce que de toutes les façons, ils sont méchants. Il dit, c'est l'indifférence des justes. Tous ceux qui se disent justes, mais qui ne font rien. Tous ceux qui savent que cette situation que nous vivons en tant que Noirs américains n'est pas bien, mais qui ne font rien. Il dit, c'est leur indifférence qui me fait mal. Parce que si on sait ce qui est juste, on ne peut pas se taire. On ne peut pas ne rien faire. Et les artisans de paix, c'est ça. Nous n'avons pas droit à l'indifférence devant des situations de relations brisées ou de conflits. Nous devons toujours essayer. Après, les gens, ils décident. C'est des adultes, hein. Écoute, m'embête plus. Tu dis, ok, j'ai essayé. Après, tu n'insistes pas non plus. Mais tu essaies. Et Dieu veut que nous soyons comme ça, des artisans de paix. Et enfin, il dit, nous sommes heureux si nous sommes persécutés à cause de son nom. On dit, oula, quelle est cette bénédiction qui se transforme en persécution? Jésus dit, la persécution n'est pas à chercher. Le chrétien n'est pas celui qui recherche à être persécuté. Mais il dit, de fait, parce que vous êtes chrétien, parce que votre caractère est un caractère qui va se mouler dans ses béatitudes, forcément, vous allez avoir de l'opposition. Forcément, vous allez être parfois pas bien compris. Forcément, vous allez être quelquefois critiqué. Forcément, vous allez peut-être quelquefois avoir le petit nom, qui est un petit nom péjoratif, mais qu'on va vous coller. La bonne sœur. C'est gentil, hein? Mais c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Vous allez dire, oula, celle-là, la sainte n'y touche. C'est la parfaite celle-là. Wow. Tout ça, pourquoi? Parce que manifestement, ils voient qu'il y a quelque chose de bien en toi. Mais comme ils ne peuvent pas y accéder, et comme ils ne peuvent pas devenir comme, c'est une jalousie du cœur pécheresse qui crée cette persécution. Je vous parlais de ma conversion. Un de mes meilleurs amis m'a dit, lui il a eu le courage de me le dire. Il m'a dit, tu sais, je sais que tu as pris un chemin qui semble être le bon, mais moi je ne suis pas prêt. Et donc pour ne pas embrouiller nos relations, peut-être qu'on va arrêter d'être meilleur. Ça m'a fait mal. Parce qu'on était vraiment, bien. Mais il voyait bien qu'on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Il voyait bien que je n'allais plus pouvoir faire ce qu'on faisait ensemble. Et moi, j'étais bien content de ne plus faire ce qu'on faisait ensemble. Parce que ce qu'on faisait ensemble, sans la connaissance de Jésus, je trouvais que c'était bon. Mais quand la parole de Dieu m'a éclairé, j'ai vu que ce n'était pas bon. Et j'ai essayé de lui en parler. Il dit, voilà, Serge, on garde notre amitié, mais on ne va pas plus loin. C'est comme ça. Et on s'est perdu de vue depuis. C'est ça qu'on appelle pour se les persécuter. Parce que voilà, il me dit que j'ai choisi une bonne orientation, mais que quand même, on doit arrêter notre amitié. Comment tu comprends? C'est ça la persécution quelque part. Parce que les choix que vous allez faire ne sont plus les choix que tout le monde fait. Mais en même temps, c'est les meilleurs choix. À dessein, si on était dans une vie un peu tumultueuse, comme les jeunes aiment le vivre dans des relations amoureuses multiples, et que du jour au lendemain, le Seigneur nous y sort, tous nos amis vont dire, oh là 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 là. Lui, il va nous juger maintenant. Maintenant qu'il ne fait plus ça, il va être le moralisateur du groupe. C'est lui qui va envoyer toujours les petites phrases, mais les amis, quand même, on ne peut pas toujours briser le cœur des filles. Oh là là! Et ça va te créer de l'animosité. Ils vont commencer à ne plus t'appeler pour les sorties. Parce que quand tu vas commencer à sortir, tu vas avoir une éthique qui n'est plus celle que tu avais avant. Et ça gêne. Alors que tout le monde fait quelque chose, toi tu es là et tu ne le fais plus. Bon, on dit, si tu ne le fais plus, peut-être que c'est mieux que tu restes chez toi. Non, là, je prends des petites choses, mais pour vous montrer que c'est de ça que Jésus parle. Il dit, quand vous allez vous positionner pour moi, il y a certaines choses pour lesquelles les gens ne vont pas aimer. Mais soyez heureux, parce que vous avez pris la bonne part, parce que vous êtes sur la bonne trajectoire, parce que les valeurs que vous avez embrassées sont les bonnes. Et les autres, ils n'en sont pas convaincus maintenant, mais laissez, vous allez voir. Ça va venir. Ça va venir. Que Dieu nous aide. Il y a des frères, il y a des églises qui sont encore pires que nous, parce que les persécutions attentent même à leur vie physique, à leur vie tout court, à la vie de leur famille, dans des pays où la foi chrétienne n'est pas acceptée. Parce que la foi chrétienne instille des valeurs et une morale qui n'est pas acceptée souvent dans ces pays-là. Vous savez, si vous êtes dans un pays où la polygamie est prêchée et que vous prêchez la monogamie, c'est que vous êtes accepté? Mais non. Parce que vous ramez à contre-courant de quelque chose que tout le monde fait. Bref. Quand vous avez des valeurs qui vous disent que la corruption, ce n'est pas quelque chose qui me fait du bien à moi et qui du reste ne fait pas du bien à la société, et que tout le monde dit, tout le monde fait ça. Bah attends, arrête un peu de nous embêter avec tes histoires. Si tu ne veux pas le faire, écarte-toi. Et quand tu rejoins, s'il ne te plaît, pas de discours, s'il te plaît. Voilà. On te respecte, tu nous respectes aussi, chacun fait son truc. Parce qu'il y a une gêne. Bref, Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Et c'est comme ça qu'il va conclure les béatitudes. Et c'est comme ça que je conclue sur ces béatitudes. Il dit, ces 8 traits de caractère dont je vous ai parlé, c'est ça qui va faire de vous le sel de la terre. Si ces 8 traits de caractère, vous les développez par la force du Saint-Esprit en vous, vous allez être le sel de la terre. Vous allez être la lumière. Donc, ces expressions que vous entendez, celle de la terre, lumière du monde, ça vient juste après la béatitude. Ça vient comme une conclusion. On dit, c'est comme ça. Si vous êtes le sel, et c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens, si vous êtes lumière, et c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens, ces 8 attitudes, ces 8 traits de caractère doivent être manifestés, câlinés, cultivés, approfondis, progressés dans nos vies. Que Dieu nous aide, pour que ce bonheur qui est attaché au fait que nous sommes citoyens du royaume des cieux, avec toutes les promesses, parce qu'à la fin, de ce chapitre 5, au verset 16, il va dire que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que nous serons des agents de la bonne nouvelle. Pas parce que nous aurons dit « Jésus vous aime », mais parce qu'ils verront les œuvres. Dans ces 8 béatitudes dans nos vies, ils verront une différence. Et ça va parler, et ça va toucher, ça va interpeller. Et c'est ce que Dieu veut. Puisque je vous ai dit, nous sommes 7 milliards d'habitants. Et chaque jour qui passe, Dieu cherche à rentrer tout le monde dans son royaume. Et c'est les chrétiens qui, par leur attitude, qui sont aussi ce message de Dieu pour interpeller. Heureusement qu'il y a eu des chrétiens, qu'il y a eu des chrétiennes sur l'itinéraire de chacun de nous qui sommes là. Parce que c'est eux qui ont fait que l'évangile a retenti dans nos cœurs et que nous avons répondu oui. Et c'est ce que nous voulons faire aussi. Continuer à faire cela. Dans la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble.